Benjamin, Galiane, Mathis et Toudot, élèves de 5e au collège Montaigne de Conflans-Sainte-Honorine, reçoivent Madame Bottier, adjudant-chef à la police municipale de Conflans-Sainte-Honorine.
Bonjour, comment doit-on vous appeler ?
Alors bonjour, donc on peut m'appeler par mon matricule. Pourquoi ? Parce qu'en police municipale, en général, pour le public, on ne donne pas nos noms. Donc matricule, moi, c'est 113. Par contre, quand j'interviens en classe, là, je donne mon nom, donc je m'appelle Madame Bottier. Donc vous pouvez m'appeler Madame ou m'appeler Agent 113, comme vous le souhaitez, durant notre échange.
D'accord, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis Benjamin, élève de 5e 8 au collège Montaigne, à Conflans-Sainte-Honorine. Avec mes camarades Toudot, Galiane et Mathis, nous sommes ravis de vous recevoir et de pouvoir découvrir votre métier. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Les autres camarades de la classe auront peut-être aussi d'autres questions à vous poser.
Alors moi, je vous remercie à mon tour de me recevoir. Je suis désolée parce que le métier fait qu'on ne peut pas toujours être disponible. Donc c'est ce qui explique que nous avons dû reporter l'intervention. Et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Et par la suite, si parmi les personnes qui sont présentes, certains souhaitent revenir vers moi pour avoir des compléments d'intervention, je laisserai mes coordonnées à la fin de notre rencontre.
D'accord, merci.
Tout d'abord, quelles sont brièvement les missions d'un policier à la police municipale ?
Alors, les missions de la police municipale, c'est en fait la police municipale, c'est la 3e force de sécurité en France, avec les gendarmes et la police nationale. Donc, notre mission, ce sont de faire respecter la loi, le bon ordre et la sécurité dans la ville. Donc, au quotidien, on est sous l'autorité du maire et on assure des missions de police administrative et de police judiciaire. Le policier municipal, en fait, il a deux casquettes. Tout ce qui est police administrative, ça va être faire respecter les arrêtés de police, faire traverser les enfants au collège. Vous devez nous voir au collège le matin et le soir. Vous ne nous voyez jamais au collège ? Donc on est là. Donc si vous ne nous voyez pas, c'est que vous respectez bien les règles du code de la route. Ceux qui nous voient sont souvent ceux qui ne respectent pas vers qui on va. Donc la police judiciaire, là on va plus être secondé les policiers, parce qu'à Conflans-Sainte-Honorine, on est rattaché au commissariat de police nationale. Certaines villes, ce sont les gendarmes, et certaines villes, ce sont les policiers nationaux.
Ok, merci.
Qu'est-ce que ça veut dire être brigadier chef, et quelles sont vos missions ?
Alors, les missions, je les ai expliquées juste avant. Brigadier chef, alors ça n'existe plus en police municipale, c'est un grade. En fait, en police municipale, il y a trois catégories. Il y a la catégorie A, donc ce sont les directeurs de police municipale. Catégorie B, c'est les chefs de service. Et catégorie C, donc là on a les gardiens stagiaires, les gardiens brigadiers, les brigadiers chefs principaux. Donc c'est une hiérarchie de grades dans nos fonctions. Moi actuellement, vous voyez, j'ai mon grade qui est là, donc je suis brigadier chef principal et j'encadre une équipe de 16 agents.
Quel est votre parcours scolaire pour entrer dans la police ?
Alors, je vais distinguer entre mon propre parcours et le parcours qu'on doit avoir pour entrer dans la police. Alors, le parcours scolaire, on est sur un diplôme niveau BEPC. Il y a le parcours scolaire, on va dire qu'il faut qu'il y ait un parcours quand même sans faille d'un point de vue du comportement. Pourquoi ? Parce qu'il y a le côté, la réussite vis-à-vis des études, mais il y a aussi le comportement qui va impacter sur la possibilité de rentrer dans la police. Alors, ce n'est pas seulement la police, hein, c'est les métiers de l'enseignement, footballeur professionnel. Dès qu'on a commis une infraction, quelle qu'elle soit, on risque d'avoir des entraves pour pouvoir rentrer dans ce métier. Donc, quelqu'un qui a objectif de faire ce métier plus tard, que ce soit policier national, policier municipal ou gendarme, et eh bien qu'ils tiennent compte aussi de son comportement, parce que ça aura un impact. Alors ça aura un impact sur la décision de pouvoir rentrer dans la police, parce qu'une personne qui a un casier judiciaire ne peut pas être policier, mais ça aura un impact aussi d'un point de vue moral, puisque moi, ça fait 25 ans que je suis policier, et je reste convaincue qu'on ne peut pas avoir un bon discours et être dans la répression si nous-mêmes, on a eu un comportement qui n'allait pas durant notre jeunesse.
Votre parcours pour être brigadier chef?
Alors, c'est un parcours qui est traditionnel, hein. C'est une grille. Hein. En fait, c'est une grille, c'est au nombre d'années. Donc, quand on rentre en police municipale, on est gardien stagiaire. Ensuite, contrairement à la police nationale et la gendarmerie, en police municipale, on passe un concours. Quand on a le concours, on doit trouver une mairie, donc une ville qui nous recrute. Une fois qu'on est recruté, on va à l'école pendant 6 mois. Donc, ça s'appelle le CNFPT, hein, c'est un centre national de formation. Durant ces 6 mois, on est formé sur le métier de policier. On fait des stages. Ça peut être des stages en police nationale, dans les services sociaux, chez les pompiers, en milieu pénitentiaire. À l'issue de ces 6 mois de stage, si on a réussi les 6 mois, on est validé dans notre fonction et on devient gardien titulaire. Ensuite, donc gardien, c'est au même niveau que gardien brigadier. Donc ensuite, on peut évoluer. Donc après de 4 ans de fonction, on peut devenir brigadier chef principal. Alors ça, c'est au choix de la commune. Il y a des communes où, une fois les 4 ans sont passés, ils décident de nommer la personne brigadier chef principal. Puis il y a d'autres communes, on va regarder le fonctionnement de l'agent, ses notations, son attitude. Donc à Conflans-Sainte-Honorine, actuellement, on a plusieurs BCP. Le choix de nommer est fait en fonction de la demande de l'agent, parce qu'il y a des agents qui ne veulent pas avoir de responsabilité, et en fonction aussi de la qualité du travail rendu.
D'accord.
L'école pour y parvenir est-elle payante?
Alors, elle n'est pas payante, puisque c'est l'école publique, et il suffit d'avoir le niveau 5 pour avoir un BEPC. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir le bac. Mais attention, le concours de police municipale n'est pas si facile que ça. Il faut le préparer. Il faut avoir des notions quand même au niveau de l'État et du fonctionnement d'une municipalité. Et puis, il y a un oral, il y a un écrit. Donc, il faut travailler son orthographe. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Souvent, j'en parle avec mes agents parce que je corrige leurs écrits parfois. Et c'est important, je vais vous expliquer quelque chose, parce qu'au niveau des écrits, on pense souvent que l'orthographe, c'est pas grave, qu'il ne faut pas faire attention aux conjugaisons. Et moi qui accompagne mes agents ça s'appelle un rapport de police, c'est-à-dire quand il arrive quelque chose, quand on va aller au tribunal, les juges n'étaient pas là. Donc ils ont besoin qu'on leur explique, les avocats, les juges, le procureur, il a besoin de comprendre. Donc quand il va lire le rapport de police, il faut qu'ils puissent se mettre dans la situation, qu'ils comprennent où, comment, qui, pourquoi et la finalité. Quand il va lire l'écrit, toute personne qui va lire l'écrit, et c'est humain, s'il trouve une grosse faute d'orthographe, par exemple une faute de conjugaison grossière ou une faute de syntaxe grossière, et ben c'est comme un clown avec le nez, vous savez le clown avec le nez, le nez rouge au milieu de la figure, et ben le juge il va se fixer sur cette faute. Il va en oublier le reste. Et moi, je me rappelle, une fois, sur une procédure en plus très importante, il y avait une faute énorme dans le dossier. Et le policier qui avait écrit, quand on lisait l'écrit, on avait l'impression que c'était la victime qui avait tapé, alors que c'était l'auteur qui était responsable. Et le juge a été tellement choqué par cette phrase qu'il a ri. Il s'est mis à rire et ça a gâché toute la procédure. Et ça, pensez-y maintenant. Parce que quel que soit votre choix professionnel, votre construction, on va être à l'écoute de vos connaissances, de l'échange qu'on peut avoir, de la richesse de vos discussions. Et ça, quel que soit le métier que vous ferez, ça aurait une importance. Et aussi en étant policier. Parce qu'une personne qui est face à nous en tant que victime et qu'on ne sait pas lui répondre, on a un verbal particulier, vous savez, un peu... Ouais, c'est bon, ça suffit, qu'est-ce que tu veux, et ainsi de suite. Cette façon de parler en tant que policier, c'est impossible. Donc la tenue, l'uniforme, la façon de se tenir, la façon de parler, ça a une importance. Et les écrits professionnels, c'est très important aussi.
Votre salaire vous convient-il?
Alors, le salaire ne convient jamais parce que l'être humain fait qu'on en veut toujours plus. On a toujours le sentiment qu'on n'en a jamais assez. Alors la problématique qu'on a en police municipale, donc le salaire est convenable, hein, c'est La complainte des policiers municipaux, c'est qu'à contrario de la police nationale et de la gendarmerie, on va avoir une énorme baisse de salaire pendant nos retraites. Donc moi qui ai 25 ans de métier, qui reçois aujourd'hui des jeunes qui pourraient avoir l'âge de mes enfants, je leur conseille de prévoir leur avenir. Et ça s'appelle une complémentaire. Alors, une complémentaire, ça veut dire qu'on cotise, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des services pour pouvoir à la retraite avoir des compléments de salaire. Honnêtement, alors c'est vrai que c'est un discours qui m'est propre. Hein. Moi, je n'ai pas fait ce choix de métier pour le salaire. J'ai fait ce choix de métier parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et le choix de la... Parce qu'en police municipale, c'est un salaire qui peut varier d'une mairie à une autre. Ce n'est pas un salaire fixe. On peut avoir des primes, on peut avoir des avantages. Si je devais changer de commune, je pense que ce n'est pas la première chose que je regarderais. Je regarderais surtout les conditions de travail, les attentes de la municipalité et en troisième lieu, le salaire que je vais percevoir.
Dans quelle unité êtes-vous ?
Alors moi, je suis responsable, donc je gère un peu tout le service. Je n'ai pas d'horaire. À Conflans-Sainte-Honorine, on a une amplitude d'horaire qui va de 6h du matin jusqu'à 2h15 du lendemain. Les agents de jour, ils sont 7, les agents de nuit, ils sont 8. On a 2 maîtres chiens. Et puis moi, mon horaire n'est pas défini. Je fais un peu... J'aime aller en patrouille avec l'ensemble de mes collègues. Alors des fois je suis en journée, des fois je viens le dimanche, des fois je viens de nuit. Parce que je pense que c'est important d'être au sein des équipes pour voir l'activité.
Est-ce que vous faites des enquêtes et des investigations?
Alors la grande distinction qu'il va y avoir entre la police municipale, la police nationale et la gendarmerie, c'est que la police municipale ne fait pas d'enquête. La police municipale, elle va arrêter les gens, mais ensuite, elle ne va pas les poursuivre. Ça veut dire qu'elle va les ramener au commissariat, elle ne va pas faire les requêtes. Ça va être, pour Conflans-Sainte-Honorine, les officiers de police judiciaire qui vont faire les enquêtes. Alors, si vous voulez, pour comparer, en police nationale, donc, il y a les gardiens de la paix, c'est ceux que vous voyez qui tournent en voiture dans la ville et qui font les recherches de délits et d'infractions. Et au commissariat, il y a les officiers de police judiciaire. Ben nous, on équivaut aux gardiens de la paix. La différence qu'il va y avoir entre la police nationale et nous, c'est que nous, on est sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine, parce que notre patron, c'est le maire. Est-ce que je peux inverser, vous poser une question? Ça ne vous dérange pas? Dans le même cadre, je suis en train de vous dire que la police municipale, on ne travaille que sur Conflans-Sainte-Honorine. Mais imaginons que... un jeune en scooter renverse une... On est en train de circuler. On le voit renverser une petite mamie sur un passage piéton. La mamie, elle tombe au sol et le scooter part avec le jeune dessus. Et il s'en va. Il quitte Conflans-Sainte-Honorine, il part à Herblay. D'après vous, est-ce que j'ai le droit de le suivre ou est-ce que je dois m'arrêter au panneau Herblay et appeler mes collègues d'Herblay pour leur dire ce qui se passe?
Vous pouvez appeler vos collègues d'Herblay, mais le poursuivre.
On va regarder si la mamie, elle est en bon état. Enfin...
Déjà, il faut se stopper. Enfin, se stopper 2 secondes, envoyer quelqu'un pour le faire. Et en même temps, de continuer à poursuivre. Donc, vous continuez dans la ville. Et puis, vous prévenez en même temps à la radio d'autres unités pour qu'ils vous aident à poursuivre.
Et...
On va s'arrêter et appeler la police d'Herblay.
Ah pardon.
Vu que l'incident s'est passé à Conflans, vous pouvez entrer à Herblay.
Vous prenez sa carte. Le panneau derrière sa plaque.
Oui. Alors toutes les réponses sont bonnes. Je suis vraiment contente d'entendre ces réponses. Si vous saviez le nombre de fois que j'entends, vous vous arrêtez au panneau d'Herblay et vous ne passez pas de l'autre côté. Effectivement, le délit s'est passé sur Conflans, donc on peut le suivre. Alors pas le poursuivre, je reprends le terme parce que on ne peut pas poursuivre. Poursuivre, ça veut dire qu'on peut mettre en danger d'autres personnes. Donc on va le suivre en toute sécurité. On va prévenir l'officier de police judiciaire d'Herblay qu'on quitte notre commune. Effectivement, vous avez tout à fait raison. En premier lieu, on s'assure de l'état de santé de cette petite mamie qui est au sol.
Et vous pouvez appeler aussi, je crois que dans votre voiture, vous avez un truc...
une radio.
Une radio pour appeler les secours, par exemple les pompiers ou la police municipale. Vos collègues, vous pouvez appeler aussi plein de gens.
Alors avec la radio, on ne peut appeler que la police nationale parce qu'ils ont une radio. En fait, la radio, elle est propre à la police municipale, mais on a une radio de chez nous qui est au commissariat. Comme ça, la police nationale, ils entendent toutes nos conversations et s'ils doivent nous appeler, ils peuvent le faire. Par contre, les pompiers, on a des téléphones portables et on peut appeler les pompiers par ce biais. On ne pourrait pas avoir des radios qui communiquent avec tous les services s'il y aurait trop mélange d'informations en même temps. Ça serait impossible.
D'accord. Merci pour la question.
Comment est organisé le travail d'un policier ?
Alors, chaque police municipale organise son travail différemment. À Conflans-Sainte-Honorine, on va organiser notre journée. Alors, moi, je viens d'éducation nationale, mes parents, mes sœurs, donc je suis très scolaire. Donc, on a un planning journalier avec des missions régaliennes. On va prendre notre service, faire en fonction... En fait, on va établir notre journée en fonction de l'activité des Conflanais. Donc déjà à la semaine, on a la semaine, les gens sont au travail, emmènent les enfants à l'école, font le soir des activités sportives. Donc on va planifier, moi j'appelle ça des consignes, ça veut dire que les agents doivent aller sur les écoles, les collèges, dans les parcs, à la sortie des commerces, et puis prendre contact. C'est important parce que le policier municipal ne doit pas oublier que la première chose qu'il doit faire, c'est de la police de proximité. Parce qu'on arrive à la répression, mais en passant par la prévention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sanctionner, sauf si c'est des délits ou des crimes graves et inopinés, on ne peut pas passer notre temps à sanctionner. Il faut aussi qu'on ait des contacts avec la personne. Donc on travaille avec les autres services de la ville, avec le service social, le service environnement. Donc on a vraiment, là-dessus, on a des missions importantes. On vérifie aussi l'état de la commune. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que souvent le sentiment d'insécurité des gens vient de l'état des lieux. Imaginez la scène, vous passez devant une gare et vous voyez jonçant au sol plein de papiers, plein de détritus, plein de canettes, des graffitis partout. Ce contexte-là crée un sentiment d'insécurité. Donc notre rôle est d'ôter ce sentiment vis-à-vis des gens. Ensuite, une fois que toutes les consignes sont faites et les missions qu'on a données aux agents sont établies, ils ont l'opportunité de faire leur activité pour toutes les missions qui sont dévolues. Donc le code de la route, aller prendre contact avec les gardiens des offices d'HLM, vérifier que si par exemple on voit dans un jardin un chien catégorisé, qu'il ait bien été déclaré parce que c'est une obligation. Prendre en compte les objets trouvés dans la ville, vérifier qu'une personne est bien domiciliée à une adresse. Donc il n'y a pas de restriction. On peut faire les marchés, vérifier que les règles d'hygiène sont bien respectées. Après, en police municipale, il y a des unités spécifiques. On parlait tout à l'heure d'unités. Il y a la brigade équestre, il y a des villes où il y a des chevaux. Il y a les brigades motorisées, les brigades VTT. Dans certaines régions, il y a les brigades nautiques. Donc, les missions sont vraiment très importantes. Ce qui va réduire le champ de mission, c'est la décision politique des élus. C'est lui qui va définir l'activité qu'il souhaite dans sa commune.
Quelles sont les différences entre un gendarme et un policier municipal ou national ?
Alors, policier national, c'est des civils, ils dépendent de l'État. Les gendarmes sont des militaires, ils dépendent de l'armée. Donc voilà la grosse différence. Donc les gendarmes, ils vivent en caserne. Donc ils sont plus dans les villes rurales et les policiers nationaux plus dans les villes urbaines. La grosse différence qu'il va y avoir, c'est ce que j'avais dit au départ, c'est le fait que nous, on n'est pas d'enquêteurs. Ça veut dire qu'on n'a pas de garde à vue. Donc on arrête quelqu'un, on le ramène au commissariat et il est pris en charge par la police nationale. La police nationale, ça veut dire qu'ils vont faire plusieurs communes. Nous, on va rester sur Conflans. D'initiative, je ne peux pas me dire, tiens, aujourd'hui, si j'allais faire un petit tour sur Herblay ou si j'allais faire un petit tour sur Andrézy, je sors de ma commune, ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux le faire que dans le cadre de flagrant délit ou de crime.
D'accord. Pourquoi vous avez choisi la police municipale au lieu de nationale?
Alors, c'est vraiment une question qui me concerne, ou d'une manière générale, pourquoi je pense que les gens font police municipale? Là, c'est juste pour moi la question. D'accord. Donc moi, j'ai choisi la police municipale. Moi, c'est un rêve d'enfant. Je voulais vraiment porter l'uniforme. Je n'avais pas vraiment de choix. Je découvrais au fur et à mesure les missions. Alors moi, je voulais rentrer dans l'armée. Je ne voulais même pas être ni gendarme. Je voulais être légionnaire. Alors ça paraît un peu surprenant pour une femme. Mais bon, je suis allée jusqu'au bac parce que mes parents, étant dans l'éducation nationale, donc mes parents étaient dans l'enseignement, il fallait passer notre bac. C'était comme le permis, on avait le droit de faire ce qu'on voulait une fois qu'on avait le permis et le bac. Donc j'ai eu mon bac et j'ai choisi la police municipale un peu par hasard. C'est parce que à l'époque, j'étais mariée avec un policier national qui était à la BAC, dans la brigade anticriminalité. Alors c'est la brigade qui est en civil, qui ont des voitures non logotées police et qui sont en civil. Et j'écoutais les échanges. Et puis un jour, je suis allée à un spectacle et il y avait dehors des policiers municipaux. Je suis allée discuter avec eux. Et quand ils m'ont... Alors ça fait 28 ans en arrière, parce que le métier a beaucoup changé. Et ce jour-là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc j'ai passé le concours... police nationale, gendarmerie et police municipale. Et puis, comme j'étais déjà maman, je me suis dit que par rapport à mes choix professionnels et puis ma vie de famille, c'était plus serein pour moi de rentrer en police municipale. Et la petite anecdote, c'est que donc j'ai réussi le concours et je ne voulais travailler qu'à Conflans-Sainte-Honorine parce que je suis fille de marinier, donc mes parents avaient une péniche. Et toute petite, je disais toujours à mes parents que je protégerais les gens des péniches. Et j'ai sollicité un poste à Conflans-Sainte-Honorine. Et puis j'ai eu mon poste et je ne suis jamais partie. Et je pense que je finirai ma carrière à Conflans-Sainte-Honorine.
Y a-t-il des différences entre hommes et femmes dans votre métier?
Alors j'aime bien la parenthèse, ou à cause de la couleur de peau. Tu n'as pas dit.
Ou à cause de la couleur de peau.
Alors on reste des humains. Je l'expliquais hier à un jeune homme que j'ai rencontré pour le recruter, c'est que il faut pas vendre du rêve, de dire que tous les policiers sont gentils, que toutes les femmes sont gentilles. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc il y a des conflits, il y a des désaccords. Il peut y avoir effectivement, et c'est pour ça que je précisais la parenthèse, à cause de la couleur de peau, parce que c'est déjà arrivé effectivement qu'il y ait des problématiques. Maintenant, de par notre métier. Et par le fait qu'on prête serment, ça veut dire qu'on va au tribunal, on pose notre main sur le code pénal. Donc le code pénal, c'est ce qui réglemente toutes les sanctions possibles pour les infractions. Et on prête serment, ça veut dire qu'on jure, en posant cette main sur le code pénal, qu'on respectera la loi et qu'on la fera respecter. Donc quand nous, policiers, on fait une bêtise, quelle qu'elle soit, on est sévèrement sanctionné. Donc il y a des sanctions au niveau du pénal, mais il y a des sanctions aussi administratives. Et quand il y a des différences qui sont faites de type racial ou des différences discriminatoires, quelles qu'elles soient, les agents peuvent être sévèrement sanctionnés. Maintenant, les différences entre hommes et femmes, parce que je suis une femme. Donc il peut y en avoir. On peut, moi j'estime, alors on va parler de différence homme-femme, on va parler aussi de différence de tempérament. Moi j'aime vraiment que chacun se dise les choses. Alors je vais vous donner une anecdote, alors au départ ça surprend quand je recrute quelqu'un. Mais je lui demande de me dire, est-ce qu'il a une phobie par exemple? Est-ce qu'il a une phobie de quelque chose qu'il a très peur? Ou si on va sur si on nous annonce sur les ondes qu'il y a une personne qui vient de se suicider, donc elle vient de mettre fin à ses jours, est-ce qu'il y a parmi les agents des gens qui ont peur de voir ça, ou qui se sentent mal à l'aise avec le fait de voir un corps, quelqu'un décédé. Et je leur demande de me dire, justement, parce que c'est important, les différences, c'est quelque chose qui est une contrainte, mais c'est aussi positif. Parce que si on était tous pareils, hein, tous la même tête, hein, tous la même voix, tous le même cerveau, on s'ennuierait. Donc la qualité des différences, c'est aussi au sein du service de police que tout le monde ait des atouts et des défauts et qu'on en fasse un mélange. Donc chaque agent me dit... Moi, par exemple, j'ai des agents qui arrivent, qui me disent « Moi, je rêve de faire des interventions scolaires. Moi, mon rêve, Ça fait des années que je suis en police municipale, mais j'aimerais faire ça. Eh bien, je me débrouille pour lui faire faire des formations pour qu'il fasse des interscolaires. Un autre qui va me dire, moi, mon rêve, c'est de faire du VTT. J'ai envie de patrouiller, mais j'ai envie de faire du VTT pour aller prendre contact avec les gens. Eh bien, on lui fait faire. Une collègue qui va me dire, alors moi, ma phobie, c'est les serpents. Si jamais je vois un serpent, je meurs. Eh bien, si on est appelé sur une intervention pour un serpent, c'est pas elle que je vais te mettre en premier. Si vraiment elle doit y aller, je vais l'accompagner, on va débriefer. Un débriefing, ça veut dire, sur les interventions difficiles, on se réunit et on parle. Et on échange, on se dit, tiens, on a fait telle erreur, on aurait dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça. Parce que les agents, faut absolument, on est ensemble, on est comme une famille. On est ensemble, on est 12 heures par jour ensemble. On a des difficultés et on sait de quoi on parle. Quand on rentre chez soi, s'il faut qu'on parle à nos maris, à nos enfants, on ne s'en sort pas. Donc il faut débloquer les problèmes au sein du service et respecter les différences pour qu'elles deviennent une richesse. Un exemple de différence, on parle de couleur de peau, mais moi je vais vous parler d'ethnie. Il n'y a rien de plus riche que quelqu'un qui a la double nationalité. On va se retrouver face à une personne qui parle que congolais, parce que c'est la seule langue qu'elle sait parler, et bien quand j'ai un collègue à moi qui sait parler congolais, je peux vous dire qu'il me retire une sacrée épine du pied. Hein, parce qu'il me traduit et ça réduit la difficulté et l'angoisse en direct.
Comment se déroulent les permanences et les astreintes?
Alors, à Conflans-Sainte-Honorine, il n'y a pas de permanence et d'astreinte. Ça existe dans d'autres communes. Alors, c'est simple, hein, c'est des horaires définis. C'est chaque commune fait comme elle le souhaite. C'est des horaires définis et l'agent peut être rappelé pour venir travailler si on a besoin de lui. C'est tout.
Il y a-t-il beaucoup d'interventions dans la journée?
Il y a beaucoup de consignes. Je parlais des consignes tout à l'heure. Elle est très riche. Et puis, il peut y avoir des journées où on n'est pas appelé. La journée est très calme. Alors, j'ai tout profil confondu. Il y a des agents qui me disent, oh là là, ça fait 6 heures qu'on tourne, on n'a rien eu. Eh ben non, on a quelque chose, parce que ne serait-ce que le fait de tourner dans la ville, eh ben les gens nous voient. Et il y a peut-être des choses qui allaient se commettre, qui ne se commettent pas parce qu'on est présent. Et je ne peux pas entendre un mot d'un agent qui va me dire, je m'ennuie. Ce n'est pas possible de s'ennuyer dans notre métier, il y a toujours quelque chose à faire. Celui qui aurait culot de le faire, il va se retrouver à nettoyer les pneus de la voiture pendant plusieurs heures, parce qu'on ne peut pas s'ennuyer dans notre métier. On trouve toujours de l'activité. Et je ne l'entends jamais d'ailleurs. Je pense qu'ils ont vraiment le même, partagent le même sentiment que moi. Et puis il y a des jours, eh ben, on n'a pas d'horaire en police municipale. Ça, c'est aussi assez important en police. On sait à quelle heure on commence, mais on ne sait jamais à quelle heure on finit. On peut très bien avoir notre service qui doit finir à 18h. Et puis à 17h50, le téléphone sonne ou les radios s'enclenchent et dire voilà, on a besoin de vous, on a besoin de renfort, il y a un accident de la circulation, il y a une inondation, il y a un incendie. Et puis ben, tu es en train d'enlever tes rangers, c'est ton pantalon, ben, tu le renfiles parce qu'il faut y aller. Et tu peux être là jusqu'à 4-5 heures du matin parce que la procédure est là. Et c'est un choix professionnel.
C'est quoi un ranger?
C'est les chaussures, c'est ça, c'est ce que je porte au pied.
Ah.
Voilà.
Ah, merci. Faut-il un permis A ou un permis spécial?
Alors, ce qui est un peu amusant, c'est qu'en police municipale, quand on passe le concours, il n'est pas obligatoire d'avoir le permis. Par contre, pour pouvoir conduire une voiture de police, il faut le permis. Donc, il peut y avoir des polices municipales qui recrutent des agents qui n'ont pas le permis, mais c'est très rare, hein, parce que c'est vérifié. Parce qu'on a un profil de poste, ça veut dire qu'on met une annonce pour offrir le poste aux personnes qui veulent postuler. Et dans l'annonce, c'est marqué qu'il faut avoir le permis B. Donc en général, et c'est pareil en police nationale, hein, les personnes qui passent le concours, alors gendarme, je ne sais pas, mais les personnes qui passent le concours de policier municipal, il faut qu'ils aient obtenu leur permis au moins à la fin de leur FIA. Mais c'est très rare qu'un agent n'ait pas le permis quand il rentre dans les postes. Après, les autres permis sont un plus. Il y a des collègues qui veulent faire rentrer en brigade moto, il leur faut le permis moto. Il y a certaines communes qui payent des permis. Permis bateau, permis moto, parce qu'ils vont créer une brigade spécialisée et ils offrent aux agents le paiement de leur permis pour pouvoir faire l'activité. Alors moi, quand je suis rentrée en police municipale, on avait des motos à l'époque. Hein, c'était des motos des 125, des motos simples. On passait le permis. Je me sentais pas à l'aise sur la moto parce que je passais plus de temps à regarder le côté mécanique que les interventions. Et un jour, je suis tombée, la chaîne a cassé. Donc, le monsieur qui m'accompagnait m'a dit qu'en 30 ans de service, il n'avait jamais vu ça. Et ça m'a rassasiée, j'en ai jamais refait.
J'avais juste une petite question à rajouter du coup sur le même point. Est-ce que pour être policier, pour rester dans ce métier-là, dans tous les cas, on est obligé d'avoir ou pas un permis ou ce n'est pas obligatoire?
Dans l'activité, oui. Parce que si tu n'as pas de permis, tu ne pourras pas conduire, donc il n'y a aucun intérêt. Alors, par contre, en police municipale, il y a des métiers annexes. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être dû les voir dans la ville, ça s'appelle les ASVP, agents de surveillance de la voie publique. Donc, ce ne sont pas des policiers municipaux, mais ils travaillent au sein du service. Ce sont des agents qui font la verbalisation de toutes les infractions au code de la route, qui vont faire les sorties des écoles, qui accompagnent les policiers municipaux dans leur mission, mais qui restent dans leur mission d'ASVP. Ben ça, il n'y a pas besoin d'avoir de permis. Après, il y a les opérateurs de vidéosurveillance. Vous savez, quand il y a les caméras dans la ville qui surveillent la ville, il y a des gens derrière, ça s'appelle des opérateurs. Et ça, c'est pareil, c'est des métiers qui sont en lien avec la police municipale, mais il n'y a pas besoin d'avoir le permis.
Portez-vous une arme? Et si oui, à quel moment ou à quelle occasion?
Alors, on porte plusieurs armes, on les porte tout le temps. À part là, bon, je suis, quand je viens d'interscolaire, je ne porte pas non plus mon gilet pare-balles, parce que je suis nue toute seule et puis directement. Mais sinon, notre armement, ça fait partie de notre uniforme, donc on porte tout le temps.
Avez-vous déjà tué quelqu'un?
Non, je n'ai jamais tué quelqu'un. Par contre, j'ai assisté à des assassinats et des meurtres. Nous sommes armés en armement létal, donc c'est le Glock 17 hein, qu'on a à Conflans depuis peu. Et à Conflans-Sainte-Honorine, je touche du bois. Il n'y a encore eu aucun agent qui a eu besoin de faire, l'usage de ces armes. Alors, la bombe lacrymogène, c'est une arme. Hein. Le bâton, c'est une arme. Donc, ça, c'est des armes qu'on a déjà utilisées. Tuer quelqu'un, c'est dans le cadre de la légitime défense. Ça veut dire qu'on va utiliser notre arme que si la légitime défense est justifiée pour nous-mêmes ou pour autrui. Donc, je peux vous garantir que si on sort notre arme, c'est que la situation est suffisamment grave. Et en tant qu'encadrante, j'espère que je n'aurai jamais un de mes collègues qui sera face à cette situation. Et s'il l'est, on passe de l'autre côté. Ça veut dire que le jour où on utilise notre arme, eh ben, on devient nous-mêmes entendus, placés en garde à vue. C'est une obligation pour savoir ce qui s'est passé, les circonstances et ainsi de suite. Et c'est une responsabilité très importante et d'un point de vue moral aussi, parce qu'il faut vivre avec ça toute sa vie. D'avoir tué quelqu'un. Donc moi, ça ne m'est jamais arrivé, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Mais j'ai déjà fait usage de mes autres armes, hein, du bâton, de la bombe lacrymogène, je les ai déjà utilisées.
J'ai une autre question, pas dans ce test-là, mais est-ce que vous pouvez aller dans la prison?
Non.
Vraiment,
non, on n'y va pas, on n'y va que dans le cadre de stages. On peut demander à faire des stages pendant nos 6 mois d'école. Après, durant notre carrière, on pourrait le faire, mais on n'a pas lieu d'y aller parce qu'on on interpelle et on ramène au commissariat.
Non.
Et
c'est pas ça que je voulais dire. En fait, est-ce que vous pouvez aller si vous tuez plusieurs personnes?
Est-ce qu'on peut aller en prison? Ouais. Bien sûr, on peut perdre notre travail hein, si on est responsable. Alors, si on abat quelqu'un suite à un délit important ou un crime en flagrance, ça veut dire qu'il est en train de se passer, pour sauver quelqu'un, pour nous sauver. On n'ira pas en prison parce qu'on ne sera pas responsable. On sera dans le cadre de la légitime défense. Ça veut dire qu'on aura... Si par exemple, il faut que la réponse soit proportionnée à l'attaque. Par exemple, on a un individu qui vient vers nous et qui prend un couteau et qui nous menace. Comme ça avec le couteau, mais qui n'est pas près de nous, qui garde sa distance de sécurité. Si je prends mon arme et je la bats, là, ce n'est pas dans le cadre de la légitime défense. Par contre, la personne, elle vient de donner des coups de couteau à une autre personne. D'accord? Elle est en train de donner des coups de couteau à une autre personne. Là, je prends mon arme pour la battre. Je la tue. Et là, je ne suis pas responsable. C'est la légitime défense.
Est-ce que, toujours sur la même question, est-ce qu'il me faut une permission pour tirer? Imaginons qu'il y a quelqu'un qui possède une arme et qui tire sur...
La permission, ça sera la légitime défense. Et c'est là que c'est difficile. Parce qu'il faut que l'agent, en même temps que la situation se passe, il réfléchit à ce qu'il va faire. Imaginez, dans sa tête, le cerveau commence à bouillonner. Parce que lui-même, il doit réfléchir, est-ce que je peux ou je ne peux pas tirer? C'est dans le même cadre de interpeller quelqu'un. On est dans une situation, est-ce qu'on met les menottes? Parce que quand on met les menottes, ça veut dire qu'on est dans le cadre de, dans une flagrance, un délit ou un crime, donc on va mettre les menottes, donc on va lui mettre des entraves, on lui ôte sa liberté. Déjà ça, il faut qu'on réfléchisse, est-ce que je peux ou je ne peux pas le faire? Donc dans le cadre pour tirer, pour sortir son arme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des sommations, c'est une formation qu'on a, on y va régulièrement. Il n'y a pas d'ordre qui n'est donné, sauf dans des brigades spécialisées. Par exemple, quand il y a des otages, il va y avoir un ordre qui est donné, de donner l'assaut et puis d'utiliser les armes. Mais dans la réalité, nous, comme on ne peut utiliser notre arme que dans le cadre de la légitime défense, ça veut dire que c'est à nous de mesurer, c'est nous qui allons tirer, donc c'est ton arme. Si tu sors ton arme, c'est à toi de juger si tu es oui ou non dans ce cadre.
Il y a une autre question. Est-ce que les armes, on est obligé de les avoir en intervention?
Alors, il faut... oui, on est obligé de les avoir. On est obligé de les avoir, il faut qu'on ait... à Conflans, comme on a l'armement létal, il faut qu'on ait d'autres armes... pour, avant de décider de prendre l'arme létale, pouvoir utiliser d'autres armes. Par exemple, on a le pistolet à impulsion électrique. Imaginons dans une situation, quelle qu'elle soit, je vais utiliser mon arme, mon Glock, c'est-à-dire mon arme létale, et sur moi, j'ai mon pistolet à impulsion électrique. Eh bien, les juges, ils vont vérifier pourquoi j'ai utilisé l'arme létale alors que j'avais sur moi mon pistolet à impulsion électrique et j'aurais plus simplement arrêté la personne avec mon pistolet à impulsion électrique. Donc, il faut qu'on les ait sur nous.
Il y a combien de pulsions dans le pistolet électrique?
Combien de pulsions? Alors, c'est des crochets, en fait. C'est, tu tires, les crochets atteignent la personne, puis il y a un temps donné. Mais précisément, je ne pourrais pas te donner la précision du temps.
Ce métier est-il dur sur le plan physique?
Alors, il faut s'entraîner au quotidien. Alors, il ne faut pas être... il ne faut pas se laisser aller, il faut faire du sport, hein, quel qu'il soit, d'un point de vue physique et d'un point de vue moral aussi, parce que c'est un exutoire. Maintenant, il n'y a rien qui est imposé, ni dans la taille, ni dans le poids, à part un handicap physique qui ne permet pas d'intervenir. Mais il y a des entraînements réguliers, donc chez nous, c'est un intervenant qui vient tous les 15 jours pour nous... Ça s'appelle les GTPI, c'est les gestes de technique et d'intervention, c'est-à-dire qu'on travaille avec nos outils d'armement. Et puis les agents ont 2 heures de sport par semaine. Mais oui, ça peut être dur physiquement. Alors ça peut être dur physiquement, un exemple tout bête, faire la circulation pendant 5 heures, de rester debout. Alors les filles, on a tous le même problème hein, quand on a envie de faire pipi, hein, c'est un problème. Hein. Donc au bout de 6 heures, les garçons c'est un peu plus simple, les filles c'est un peu plus compliqué. Mais oui, physiquement, d'être debout, faire la circulation, tendre les bras pendant 6 heures... ça peut être difficile. Et puis après, physique, ça peut être difficile aussi par rapport au poids qu'on a, parce qu'on a un gilet pare-balles à portée, on a toutes nos armes, et s'il faut courir, ça peut être compliqué de courir si on n'a pas un entraînement régulier.
Quels sont les dangers?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question, parce que quels sont les dangers dans quel cadre? Est-ce que tu peux me compléter?
Dans le métier.
Dans le métier, oui. Mais même dans le métier, quels sont les dangers par rapport à quoi?
Qu'est-ce que vous risquez
Parce que le danger est imprévisible, c'est le principe du danger. C'est qu'on peut s'attendre on peut s'attendre en tout. Alors le danger peut être justement de ne pas faire attention aux choses. Le danger peut être aussi d'oublier qu'on n'est pas seul. Donc c'est important de sécuriser dans un équipage que chacun fasse attention à l'autre. Par exemple, sur une manifestation, un agent qui va partir tout seul et qui ne prévient pas ses collègues. Il va partir, on ne sait pas où il est, ce qu'il fait, ça c'est un danger. Après, les dangers aussi, c'est de penser qu'une petite intervention, elle est simple et qu'on ne risque pas d'avoir un problème. Un exemple tout bête, et c'est souvent les infractions au code de la route, une personne, elle est en train de conduire, elle n'a pas sa ceinture. Donc c'est une infraction au code de la route, elle va avoir une amende. Donc on se dit, c'est tout simple, pas compliqué, elle va avoir qu'une amende. On va arrêter la personne, et là ça se passe très mal. D'un seul coup, la personne elle s'énerve, et moi ça m'est déjà arrivé, elle s'énerve, elle veut en découdre, elle veut taper le policier parce qu'elle est en crise. Et là le danger, c'est de partir du principe où comme c'était pas une grosse infraction, on ne risquait rien. Donc il faut toujours se protéger. Par exemple, quand on arrête les voitures, ben, nous on appelle ça la triangulation. Ça veut dire qu'on va se mettre chacun à un endroit autour de la voiture, ou chacun à un endroit quand on contrôle personne, pour se protéger et pour éviter qu'il y ait une autre situation de crise qui puisse arriver.
Vous l'aimez, ce métier ?
Ah oui. Oui, j'aime beaucoup ce métier. Je trouve qu'il a évolué. Ce n'est plus la même chose. Moi, je suis arrivée en police municipale il y a 25 ans. Je vois de plus en plus les missions changer. Alors moi, quand je suis arrivée en police municipale, on n'avait pas... Aujourd'hui, on verbalise avec, on appelle ça des GVE, c'est des téléphones. On n'avait pas de procédures simplifiées. On n'avait pas de logiciel, on n'avait pas d'ordinateur. On tapait nos rapports à la machine avec notre papier, notre stylo. Et les missions évoluent. Et puis le climat social aussi change. C'est vrai que plus on va vers le temps, plus il y a d'infractions simples. Et plus on se rend compte que la délinquance juvénile est de plus en plus importante. Ça veut dire quoi la délinquance juvénile ? C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée en police municipale, les infractions pénales... En général, ça commençait à partir de 15-16 ans. Aujourd'hui, on voit des enfants de 10 ans commettre des délits. Donc, il faut évoluer avec son temps. Et puis, j'aime ce métier. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est d'accompagner les jeunes qui veulent faire ce métier et qui arrivent dans le métier et qui ont besoin de grandir. C'est-à-dire que comme je suis encadrante, je suis très à l'écoute. Des attentes et des souhaits d'évolution des agents. Je fais partie des personnes qui pensent que quelqu'un qui va bien, qui est heureux de venir au travail, qui arrive à avoir une vie personnelle et professionnelle stable et équilibrée, est quelqu'un de productif. Ça veut dire que ce sera un bon agent. S'il n'est pas heureux, ce ne sera pas un bon agent. C'est-à-dire qu'il va venir au travail, il va faire la tête, il n'a pas envie de venir. Il n'aura pas envie de rester. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est très motivée, qui a envie de travailler, qui a envie elle-même, parmi certains de mes agents, j'arrive maintenant à avoir une génération qui, eux aussi, ont envie de faire apprendre aux autres.
Avez-vous parfois peur ?
Alors, mon avis personnel est qu'un policier qui n'a pas peur est un policier dangereux. Un policier qui a peur et un policier qui va savoir se maîtriser et savoir adapter son comportement par rapport à la situation. Alors, on a peur quand on ne maîtrise pas. Donc, il faut trouver des solutions, s'adapter et puis mesurer le danger. Et il faut savoir parfois aussi reculer. Pourquoi ? Parce que c'est le principe du suraccident. Dans des situations, si on se met nous-mêmes en difficulté, ça veut dire qu'on ne va pas sauver la personne qu'on est venu aider. Et en plus, nous-mêmes, on va devenir des victimes. Donc, il faut appeler des renforts. Et puis, alors, paradoxalement, moi, j'ai souvent plus peur pour mes agents que pour moi. C'est mon côté maternel. Et c'est vrai que quand, par exemple, ils vont sur une intervention difficile, eh bien, j'ai besoin de savoir où ils sont, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont renforcés par les effectifs de police. Et j'ai besoin d'être rassurée qu'ils vont bien et parfois de les voir, même voir de les toucher pour être sûre qu'ils sont en bonne forme. Mais la peur, souvent j'entends « Oh, t'as peur même, », même en tant qu'enfant, hein, quand « Ouais, t'es pas cap »,« Ouais, c'est parce que t'as peur ». N'écoutez pas ce discours. Faites les bons choix. Il y a deux choix dans la vie, hein. Soit on est du bon ou du mauvais côté, hein. Et basculer du mauvais côté parce qu'on a, on est invité en nous disant « Ouais, t'es pas cap, vas-y, j'ai piqué le vélo d'un tel à la sortie du collège. Ouais, est-ce que tu peux me le garder pendant 10 minutes ?» Et puis « Bah non, moi j'ai peur parce que si jamais quelqu'un nous voit, et là on entend « Ouais, d'avance t'as toujours la trouille, t'es pas capable de faire les choses. » Faites attention vers quoi on vous emmène. On peut avoir peur. Moi, j'ai très peur. Je vous parlais des serpents tout à l'heure. J'ai très peur des serpents. Et ça m'est arrivé une fois d'aller sur une intervention. Ben, j'étais toute seule avec mon collègue. Il y avait un serpent. Ben, j'étais bien obligée d'intervenir. Mais j'ai maîtrisé ma peur. Après, j'ai mangé un paquet d'MLM sans une fois, en avalant tout, sans mâcher. Mais j'ai maîtrisé ma peur.
Quelle satisfaction vous apporte dans votre métier ?
La satisfaction, c'est de sauver des gens. de sauver des gens, d'avoir participé comme une chaîne en fait, d'être le maillon d'une chaîne et de, que ce soit positif. Une satisfaction, c'est d'avoir découvert qu'une petite mamie est chez elle et qu'elle ne mange pas ou qu'elle mange des boîtes de chat. Et puis, du fait d'être intervenue, d'avoir fait signalement à services sociaux, et bien, elle est prise en charge. D'avoir une personne qui va me ramener une boîte de chocolat pour me remercier parce que je lui ai sauvé son chat qui était dans un arbre. De savoir que j'ai pu sauver un enfant qui était victime de violences par ses parents et parce que l'enfant nous l'a dit, d'avoir pu faire un signalement et que ça a fonctionné. Donc voilà les satisfactions. Et ma grande satisfaction, moi, en tant qu'encadrante, c'est quand des agents sont satisfaits et ont envie de rester travailler à Conflans-Sainte-Honorine. Là, c'est une grande satisfaction.
Est-ce qu'on peut faire des stages dans les prisons?
Oui.
Ou dans la police?
Alors, dans la police, c'est compliqué. En police municipale, on ne prend pas parce que c'est un choix par rapport à la confidentialité. Maintenant, police nationale, ils prennent parce qu'ils ont des gros services. Donc, ils peuvent se permettre de faire visiter certains services. Chez nous, il n'y aurait pas d'intérêt parce que à Conflans-Sainte-Honorine, alors, il y a des polices municipales qui prennent, hein, parce qu'ils ont des gros services et puis ils peuvent montrer certaines unités qui... Mais chez moi, la journée passe très vite, hein, parce que j'ai deux secrétaires, j'ai des caméras, mais je n'ai pas d'opérateur vidéo et on ne peut pas faire sortir en voiture. Donc, par contre, en prison, oui, ils prennent aussi.
Est-ce que vous avez déjà fait des courses poursuites en voiture?
Oui. Oui, j'ai fait des courses poursuites. Alors, quand je suis rentrée en police municipale, ma grosse crainte était de conduire le véhicule de police avec les gyrophares et les deux tons. Les deux tons, c'est la sirène qu'on entend. Et quand je suis arrivée en police municipale, moi, j'avais comme moi aujourd'hui des personnes plus âgées et qui avaient du métier. Et un jour, j'ai confié à deux d'entre eux que ma crainte était un jour de devoir suivre un véhicule. Et ils m'ont emmené dans un endroit discret. Et ils m'ont dit, vas-y, tu mets le gyrophare et tu mets les deux tons et fais comme si tu poursuivais une voiture. Donc j'ai mis le gyrophare et les deux tons, ça a duré 2 minutes. Et une semaine après, j'ai dû poursuivre dans tout Conflans jusqu'à Herblay un monsieur qui avait renversé quelqu'un, qui était totalement ivre. Arrivé à Herblay, il est tombé dans un fossé, il a couru dans les champs et ainsi de suite. Et on l'a récupéré. Et puis là, de ce jour-là, je me suis dit que j'étais capable même de conduire n'importe quelle voiture.
Reprenons un peu sur la question de Tudo. Est-ce qu'on peut du coup faire des stages de 4e ou de 3e, puisque nous on est en SECPA et puis on a droit au stage de 4e
Oui, je pense que vous pouvez le demander. Il faut essayer de demander des stages. Alors après, en discutant avec vous, je réfléchirai parce qu'on peut peut-être envisager pour l'année prochaine une visite au niveau de la police municipale pour vraiment ceux qui étaient intéressés par le métier. Je verrai avec monsieur le maire et s'il me l'accorde, on pourrait programmer une visite dans le service et puis que vous voyez en direct, puis que vous puissiez discuter avec mes agents policiers municipaux, les ASVP, les maîtres chiens et de voir comment ça se passe.
Est-ce qu'on peut faire des stages du coup, parce que vous avez dit en police nationale, vous pouvez ça accepter, mais est-ce qu'en gendarmerie aussi c'est possible?
Je ne sais pas. Maintenant, je pense que ça ne dépend pas de la structure, ça dépend du choix du commandant de gendarmerie. Donc il faut tenter le coup. Il faut tenter le coup. Vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez vraiment un projet professionnel, je pense que ça peut marcher.
Il y a une caserne ou pas loin de gendarmerie?
Il y a la gendarmerie fluviale, oui, avenue Carnot.
À Conflans?
Oui.
Avez-vous été déjà blessé gravement?
Oui, plusieurs fois. Alors gravement, pas très gravement, mais des blessures qui ont fait que je n'ai pas pu travailler. Oui, ça m'est déjà arrivé.
Comment faut-il faire pour faire un stage à la gendarmerie?
Faire une demande traditionnelle. Il faut la motiver. La motiver, ça veut dire écrire dans le document. Si, même moi, hein, en police municipale, si je sens que la personne n'est pas motivée spécialement, mais qu'elle cherche juste un stage, il faut préciser. C'est-à-dire que vous êtes intéressé par le métier. Pourquoi pas le faire vous-même plus tard et puis de préciser les conditions. Et de toute façon, je pense que dans les demandes de stage, vous êtes accompagné par les enseignants. Donc, vous verrez avec votre enseignante pour l'accompagnement de la rédaction. C'est des stages de combien en 4e? Combien de jours?
Une semaine.
Une semaine, d'accord.
C'est à partir de quel âge que on peut être policier ou policier municipal?
18 ans.
Y
Y a-t-il quelqu'un qui vous a déjà pointé une arme?
Quelqu'un qui m'a déjà pointé une arme? Oui, oui. Alors, parce que moi, je considère que les couteaux, les bâtons sont des armes. Maintenant, arme létale, non, jamais. Mais, alors, c'est peut-être étonnant, mais moi, l'arme que je crains le plus, c'est le couteau. Alors, il y a différents types d'armes, hein, mais pour utiliser une arme, il faut avoir une distance pour pouvoir l'utiliser. Alors, une arme létale, à bout portant, ça veut dire que je suis collée à la personne. Là, il n'y a rien à faire. Là, ça veut dire que si la... Un policier, qu'est-ce qu'il doit? On a autour de nous, en fait, ça s'appelle l'aura, ça. Venez, mettez-vous face à moi.
Ah. Allez-vous.
Voilà, regardez. Restez là. Je vais venir vers vous. Reculez un peu encore, parce que je sens que déjà là, c'est pour vous compliqué. Donc, je vais venir vers vous, et vous allez me dire à quel moment ça vous gêne la proximité que j'ai avec vous. Vous ne bougez pas. Donc, j'avance. Et vous allez me dire stop.
Stop.
Voilà, tendez votre main. Voilà, ça c'est naturel. En fait, on a un cercle d'aura autour de nous. Et dans ce cercle-là, pour nous, ça devient compliqué qu'on rentre. Donc un policier, quand il parle à quelqu'un, il a cette distance à garder. Ça veut dire que si vous avancez, avancez vers moi. Monsieur, reculez. Et moi, je vais m'avancer. Ça veut dire que je lui crée cette distance. Si une personne utilise son arme à bout portant, une arme létale, le temps qu'elle... Alors, il y a deux solutions. Soit il a déjà son arme sortie, et il a son arme, et il est comme ça. Il pointe partout, il cherche, ainsi de suite. Donc là, ça veut dire que moi, je suis en danger, je peux utiliser moi-même mon arme. Mais il a son arme qui est cachée. C'est-à-dire que s'il est au contact avec moi, s'il est là, c'est-à-dire que le temps qu'il sorte son arme, déjà, moi, je ne suis pas un bon policier. Ce n'est pas normal qu'il soit là. Donc déjà, mon positionnement n'est pas bon. Maintenant, moi, l'arme que je crains le plus, pourquoi, c'est le couteau? Parce qu'une arme létale, de toute façon, on ne peut rien faire. Tout ce qui est armes, bâtons, les armes à distance, il va falloir que la personne, pour qu'elle puisse me donner un coup de bâton, elle ne peut pas être là. Il va falloir qu'elle s'arme. D'accord? Le bâton, il va partir comme ça, il va venir me taper, ou il va venir me taper comme ça. Et le temps qu'il arme son arme, lui, moi, j'ai le temps de réagir. Soit je recule, soit je me prépare, moi, à utiliser mon arme aussi, et ainsi de suite. Mais le couteau, il n'y a rien de pire. Parce que le couteau, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir au plus près. Donc déjà, moi, si je me positionne, et là, il n'y a qu'une solution. Hein. Il n'y a qu'une solution. Et ça, pensez-y vraiment un jour si quelqu'un vous arrête au couteau. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire au couteau? C'est vous attaquer les zones rouges. Le ventre, la gorge. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On se donne. Ça veut dire quoi on se donne? Ça veut dire qu'on se protège les parties vitales. Et le coup de couteau, on l'aura. On l'aura le coup de couteau. Il va nous toucher une partie, on va être blessé, on ne risque pas de mourir. Donc qu'est-ce que je fais? Je me protège comme ça, je protège les parties dangereuses, les zones rouges, je protège mon cou, je me ferme. Ça c'est pas les filles, hein, on a tendance à faire, qu'est-ce qu'on fait, on hurle? Non, j'ouvre pas, je me ferme. Et je me mets comme ça, et je reste comme ça, et je vais me donner.
Et vous pouvez pas, déjà arrivé. Vous restez comme ça. Mais vous serez mort dans tous les cas si vous restez comme ça. Et
non, je me protège des zones rouges et je ne suis pas toute seule.
Mais si,
vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la notion de la peur? Un policier dangereux, c'est celui qui reste tout seul. On n'est jamais tout seul. Dans une situation comme ça, en civil, c'est différent. Situation civile, moi j'ai 5 enfants, mes 5 enfants, avec mon mari, on est tous les 2 policiers, on leur apprend ces gestes-là. J'ai un petit-fils qui va avoir 3 ans, on lui apprend aussi. Parce qu'on n'est pas à l'abri un jour d'avoir un fou. Hein. Moi, je me rappelle, une fois à la gare de Taverny, il y a un monsieur qui est arrivé, il avait une tronçonneuse. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une tronçonneuse? Une
tronçonneuse.
Juste une dernière question. Est-ce que donc ça veut dire que vous vous protégez, mais donc si vous vous protégez, dans tous les cas, vous allez vous prendre l'arme. Et
oui.
Si vous prenez l'arme, après, vous ne pouvez plus bouger, donc il peut vous terminer.
Non, parce que je vais me protéger comme ça, mais il me reste le reste. Je vais me protéger, il va me donner le premier coup, mais il faut qu'il se réarme, mais pour me donner le même coup. Il va me donner un coup, d'accord, il va me faire comme ça. Et moi, je vais me protéger, après je m'écarte, et moi aussi, je sors mes armes. Moi aussi, hein, je peux le latter hein, au pied, il y a une réaction à avoir. Hein. D'avoir participé comme une chaîne, en fait, d'être le maillon d'une chaîne et de que ce soit positif. Une satisfaction, c'est d'avoir découvert qu'une petite mamie est chez elle et qu'elle ne mange pas ou qu'elle mange des boîtes de chat. Et puis, du fait d'être intervenue, d'avoir fait signalement à services sociaux, et bien, elle est prise en charge. D'avoir une personne qui va me ramener une boîte de chocolat pour me remercier parce que je lui ai sauvé son chat qui était dans un arbre. De savoir que j'ai pu sauver un enfant qui était victime de violences par ses parents et parce que l'enfant nous l'a dit. d'avoir pu faire un signalement et que ça a fonctionné. Donc voilà les satisfactions. Et ma grande satisfaction, moi, en tant qu'encadrante, c'est quand des agents sont satisfaits et ont envie de rester travailler à Confort Sainte-Honorine. Là, c'est une grande satisfaction.
Merci infiniment d'avoir pris tout ce temps pour nous.
Avec plaisir. Je suis impressionnée de la richesse de ce que j'entends et je pense que vous êtes vraiment une classe privilégiée. Donc prenez-le comme une force parce que là, j'ai fait exprès de vous poser des questions précises et je peux vous garantir que dans toutes les classes que je fais qui ne sont pas SACPA, ils me répondent n'importe quoi. Ils me répondent n'importe quoi. Quand je leur dis, ils me disent, mais vous ne pouvez pas arrêter les gens. Je dis, ah, ça ne sert à quoi que j'ai des menottes. Donc, gardez cette richesse-là. Vous êtes privilégiés parce que vous êtes un petit couple. Et s'il y en a vraiment parmi vous qui sont passionnés du métier de policier, n'hésitez pas, vous aurez mes coordonnées par Mme Fournier et revenez vers moi. Et je vous promets que l'idée que j'ai eue, là, instantanée, de vous proposer une visite, eh ben, je demanderai l'autorisation et on le fera. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup à vous.